1984, d'après George Orwell. Première partie. Chapitre 1. C'était une lumineuse et froide journée d'avril où les horloges sonnaient 13 coups. Winston Smith, le menton enfoncé dans sa poitrine pour échapper au vent violent, s'est engouffré à travers les portes vitrées de la résidence de la Victoire, mais pas assez rapidement pour empêcher un tourbillon de sable d'entrer avec lui. Le hall sentait le chou bouilli et les vieilles nattes de chiffon. Au fond, une affiche en couleur, trop grande pour être exposée à l'intérieur, avait été fixée au mur. Elle représentait simplement un visage énorme, de plus d'un mètre de large. Le visage d'un homme d'environ 45 ans, avec une lourde moustache noire et des traits d'une beauté sauvage. Winston emprunta les escaliers. Inutile de prendre l'ascenseur. D'ailleurs, la plupart du temps, il était en panne. Et à l'heure actuelle, le courant électrique était coupé pour la journée. Cela faisait partie de l'effort d'économie en préparation de la semaine de la haine. L'appartement était au 7e étage, et Winston, qui avait 39 ans et un ulcère variqueux au-dessus de sa cheville droite, a gravi les marches lentement, en se reposant plusieurs fois. À chaque palier, en face de la cage de l'ascenseur, l'affiche avec l'énorme visage vous regardait. C'était l'une de ces images qui sont conçues de telle sorte que les yeux suivent vos déplacements. « Big Brother vous regarde », disait la légende en dessous. À l'intérieur de l'appartement, une voix sucrée lisait une liste de chiffres qui avaient un rapport avec la production de la fonte brute. La voix provenait d'une plaque métallique oblongue, comme un miroir terne qui faisait partie de la surface du mur de droite. Winston tourna un bouton et la voix baissa quelque peu, bien que les mots fussent encore audibles. L'instrument, le télécran comme on l'appelait, pouvait être diminué, mais il n'y avait aucun moyen de l'éteindre complètement. Il se dirigea vers la fenêtre avec sa petite silhouette frêle, la maigreur de son corps simplement soulignée par le bleu des salopettes qui était l'uniforme du parti. Ses cheveux étaient très clairs, son visage naturellement sanguin, sa peau rugueuse à cause du savon grossier et des lames de rasoir émoussées et du froid de l'hiver qui venait de se terminer. Dehors, même à travers la vitre fermée, le monde avait l'air froid. Dans la rue, de petits tourbillons de vent emportaient la poussière et le papier déchiré. Malgré le soleil éclatant et le bleu intense du ciel, il semblait n'y avoir aucune couleur, sauf celle des affiches placardées un peu partout. Le visage de l'homme à la moustache noire observait chaque coin de la ville. Il était également sur la façade de la maison située juste en face. « Big Brother vous regarde », disait la légende, tandis que les yeux noirs scrutaient en profondeur ceux de Winston. Plus bas, dans la rue, une autre affiche, déchirée, et balayé par le vent de sorte qu'un coin de l'affiche couvrait et en découvrait alternativement le seul mot « Hangsok ». Au loin, un hélicoptère descendit entre les toits, resta en position stationnaire un instant comme une libellule bleue et s'éloigna en formant une trajectoire courbe. C'était la patrouille de police qui surveillait les fenêtres des gens. Ce que les patrouilles ont fait n'a pas d'importance. Seule la police de la pensée compte. Dans le dos de Winston, la voix du télécran poursuivait son énumération sur la fonte et le surmenage du 9e plan triennal. Le télécran recevait et transmettait simultanément. Il captait tous les sons que Winston murmurait à peine, et tant qu'il restait dans le champ de vision que la plaque métallique commandait, il pouvait être vu aussi bien qu'entendu. Il n'y avait bien sûr aucun moyen de savoir si vous étiez surveillé à un moment donné. On ne pouvait que supposer quand et sur quel système la police de la pensée s'était branchée sur une ligne individuelle. Il était même concevable qu'il regardait tout le monde tout le temps. Mais dans tous les cas, il pouvait se brancher sur votre ligne quand il le voulait. On devait vivre, vivre de l'habitude qui est devenue de l'instinct, dans la supposition que chaque bruit que vous avez fait a été entendu, et, sauf dans l'obscurité, que chacun de vos mouvements a été scruté à la loupe. Winston tournait le dos au télécran. C'était plus sûr, même si, comme il le savait bien, même un dos peut être révélateur. À 1 kilomètre, le ministère de la Vérité, son lieu de travail, s'élevait, vaste et blanc, au-dessus du paysage crasseux. Ceci, pensait-il avec une sorte de vague dégoût, c'était Londres, chef-lieu de la première piste d'atterrissage, elle-même la troisième plus peuplée des provinces d'Océanie. Il a essayé de faire ressurgir des souvenirs d'enfance qui devraient lui dire si Londres avait toujours été comme ça. Y a-t-il toujours eu cette vue sur des maisons du XIXe siècle en décomposition, leurs murs soutenus par des poutres, leurs fenêtres rapiécées avec du carton et leurs toits en tôle ondulée, les clôtures des jardins qui s'affaissent dans tous les sens? Et ces lieux bombardés, où la poussière de plâtre tourbillonnait dans l'air et où la mauvaise herbe grimpait sur les décombres. Et les endroits où les bombes avaient dégagé une zone plus large, où étaient nées de sordides colonies d'habitations en bois qui ressemblaient à des poulaillers. Mais cela ne servait à rien. Il ne se souvenait pas. Il ne restait de son enfance qu'une série de tableaux lumineux, se déroulant sans arrière-plan et surtout inintelligibles. Le ministère de la Vérité, Miniver en novlangue, le novlangue était la langue officielle de l'Océanie, était étonnamment différent de tout autre objet en vue. C'était une énorme structure pyramidale de béton blanc, étincelant, s'élevant terrasse après terrasse à 300 mètres dans l'air. De l'endroit où se tenait Winston, on pouvait lire ces lettres élégantes qui formaient les trois slogans du parti. La guerre, c'est la paix. La liberté est un esclavage. L'ignorance fait la force. Le ministère de la Vérité contenait, disait-on, 3000 pièces au-dessus du niveau du sol et les ramifications ci-dessous. Dispersés dans Londres, il y avait seulement 3 autres bâtiments d'apparence et de taille similaire. Ils ont tellement éclipsé l'architecture environnante que l'on pouvait voir du toit de la résidence de la Victoire, les 4 simultanément. C'étaient les sièges des 4 ministères qui constituaient l'ensemble de l'appareil du gouvernement. Le ministère de la Vérité, qui se préoccupe de l'information, du divertissement, de l'éducation et des beaux-arts. Le ministère de la Paix, qui s'occupait de la guerre. Le ministère de l'Amour, qui a maintenu la loi et l'ordre. Et le ministère de l'Abondance, qui était responsable pour les affaires économiques. Leur nom en 9 langues, Miniver, Mini-Paix, Mini-Mour et Mini-Plein. Le ministère de l'Amour était le plus effrayant. Il n'y avait pas du tout de fenêtre. Winston n'avait jamais été à l'intérieur du ministère de l'Amour, ni à moins d'un 0,5 kilomètre de celui-ci. C'était un endroit où il était impossible d'entrer, sauf pour les affaires officielles. Et ensuite seulement en pénétrant dans un labyrinthe d'enchevêtrements de fils barbelés, de portes en acier et de nids de mitrailleuses cachés. Même les rues menant à ces barrières extérieures étaient protégées par des gardes à tête de gorille, en uniforme noir, armés de matraques articulées. Winston se retourna brusquement. Il avait composé son visage d'une expression de tranquille optimisme qu'il était conseillé d'afficher face au télécran. Il traversa la pièce jusque dans la petite cuisine. En quittant le ministère à ce moment de la journée, il avait sacrifié son déjeuner à la cantine et il était conscient qu'il n'y avait pas de nourriture dans la cuisine, sauf un morceau de pain de couleur sombre qui devait être sauvé pour le petit déjeuner du lendemain. Il retira de l'étagère une bouteille d'un liquide incolore avec une étiquette blanche, simple, marquée de la Victoire Gin. Il dégageait une odeur huileuse et maladive comme dans l'alcool de riz. Winston remplit pratiquement une tasse de thé, hésita un instant comme pour se préparer au choc, et l'engloutit comme une dose de médicament. Aussitôt, Son visage est devenu écarlate et de l'eau coula de ses yeux. Ce truc était comme de l'acide nitrique, et de plus, au moment de l'avaler, on avait la sensation d'être frappé à l'arrière de la tête avec un club en caoutchouc. L'instant d'après, cependant, la brûlure dans son ventre s'est éteinte, et le monde a commencé à avoir l'air plus joyeux. Il prit une cigarette d'un paquet portant la mention « Cigarette de la Victoire », et incidemment, le tint à l'horizontale, de sorte que le tabac tomba sur le sol. Avec la deuxième cigarette, il eut plus de succès. Il retourna au salon et s'assit à une petite table qui se tenait à gauche du télécran. Dans le tiroir de la table, il prit un porte-plume, une bouteille d'encre et un épais livre blanc à dos rouge et couverture marbrée. Pour une raison quelconque, l'écran du salon était dans une position inhabituelle. Au lieu d'être placé comme c'était le cas normalement, sur le mur du fond, où il pourrait commander toute la pièce, il se trouvait sur le mur le plus long, en face de la fenêtre. À côté, il y avait une alcôve, peu profonde, dans laquelle Winston était maintenant assis, et qui, lorsque les appartements ont été construits, était probablement destinée à accueillir des étagères. En s'asseyant dans l'alcôve et en se tenant bien collé au mur, Winston pouvait rester hors de portée du télécran. Il pouvait être entendu, bien sûr, mais tant qu'il restait dans sa position actuelle, il ne pouvait pas être vu. C'était en partie la configuration inhabituelle de la pièce qui lui avait suggéré ce qu'il allait faire maintenant. Mais le livre qu'il venait de sortir du tiroir le lui avait également suggéré. C'était un livre particulièrement beau. Son papier lisse et crémeux, un peu jauni par l'âge, était d'une facture qui ne se faisait plus depuis au moins 40 ans. Il pouvait cependant deviner que le livre était bien plus ancien que cela. Il l'avait vu gisant dans la vitrine d'un petit bric-à-brac de quartier défavorisé de la ville, un quartier dont il ne se souvenait plus, et avait été immédiatement frappé par un désir irrésistible de le posséder. Les membres du parti étaient censés ne pas entrer dans les magasins ordinaires, commerce sur le marché libre, disait-on. Mais la règle n'était pas strictement respectée, car il y avait diverses choses, comme des lacets de chaussures et des lames de rasoir, qu'il était impossible de se procurer autrement. Il avait jeté un rapide coup d'œil dans la rue, puis s'était glissé à l'intérieur et avait acheté le livre pour 2,50 $. À l'époque, il n'avait pas conscience de le vouloir pour un usage particulier. Il l'avait ramené chez lui dans sa mallette, se sentant coupable. Même s'il n'y avait rien d'écrit, c'était un objet compromettant. La chose qu'il allait faire était d'ouvrir un journal intime. Ce n'était pas illégal. Rien n'était illégal puisqu'il n'y avait plus de loi. Mais s'il était détecté, il était raisonnablement certain qu'il serait puni de mort ou au moins de 25 ans de travaux forcés dans un camp. Winston a introduit une plume dans le porte-plume et l'a aspirée pour enlever la graisse. Le stylo était un instrument archaïque, rarement utilisé, même pour les signatures, et il s'en était procuré un, discrètement, et avec quelques difficultés, simplement parce qu'il avait le sentiment que le beau papier crémeux méritait d'être écrit avec une vraie plume, au lieu d'être gratté avec un crayon à encre. En fait, il n'avait pas l'habitude d'écrire à la main. À part de très courtes notes, il avait l'habitude de tout dicter à l'oral avec un phonoscript, ce qui était bien sûr impossible pour son projet actuel. Il a trempé le stylo dans l'encre, puis a hésité pendant une seconde. Une secousse avait traversé ses intestins. Marquer le papier était l'acte décisif. En petites lettres maladroites, il écrivit « Le 4 avril 1984 ». Il se rassit. Un sentiment d'impuissance totale s'était emparé de lui. Pour commencer, il ne savait pas avec certitude en quelle année il vivait. C'était sans doute une date proche de 1984, car il était assez sûr d'avoir 39 ans, et il croyait être né en 1944 ou en 1945. Désormais, il était impossible de déterminer une date précise à 1 ou 2 ans. Pour qui, se demandait-il soudain, écrivait-il ce journal? Pour l'avenir? Pour les enfants à naître? Son esprit a tourné un moment autour de la date douteuse de la page, puis, soudain, il s'est mis à chercher le sens du mot novlangue. Double pensée. Pour la première fois, il mesura l'ampleur de ce qu'il avait entrepris. Comment communiquer avec l'avenir? C'était par nature impossible. Soit l'avenir ressemblerait au présent, auquel cas il ne l'écouterait pas, soit il serait différent et sa situation serait vide de sens. Pendant un certain temps, il est resté assis à regarder bêtement le journal. Le télécran était passé à une musique militaire stridente. Il est curieux qu'il semble avoir non seulement perdu le pouvoir de s'exprimer, mais même d'avoir oublié ce qu'il avait eu l'intention de dire. Depuis des semaines, il s'était préparé à ce moment. Et il ne lui avait jamais traversé l'esprit qu'il lui faudrait autre chose que du courage. L'écriture proprement dite serait facile. Tout ce qu'il lui restait à faire était de mettre sur papier l'interminable monologue agité qui courait dans sa tête, littéralement depuis des années. À ce moment, cependant, même le monologue s'était asséché. De plus, son ulcère variqueux avait commencé à le démanger de façon insupportable. Il n'osait pas le gratter, car quand il le faisait, il s'enflammait toujours. Les secondes passaient. Il n'avait conscience de rien, si ce n'est de la blancheur de la page devant lui, des démangeaisons de la peau au-dessus de sa cheville, du bruit de la musique et d'une légère ivresse provoquée par l'alcool. Soudain, il s'est mis à écrire dans la panique la plus totale, n'étant qu'imparfaitement conscient de ce qu'il était en train de griffonner. Son écriture, petite mais enfantine, se traîne de long en large sur la page, perdant d'abord ses majuscules et finalement même ses points.